France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, qui entame sa 12e année d'existence, fraude, cancer et trahison, les millions spoliés de l'ARC. Au mois de janvier 1996, un séisme ébranle le monde de la recherche médicale en France. L'ARC, Association pour la recherche sur le cancer, se retrouve accusé de détournement de fonds, de gestion financière opaque et d'abus de biens sociaux. Montant estimé du préjudice, plus de 600 millions de francs, l'équivalent aujourd'hui de plus de 140 millions d'euros. Ici, les victimes sont bien sûr les malades du cancer, mais aussi certains laboratoires de recherche, et surtout, les millions de Français qui ont donné pendant des années, souvent un petit chèque, mais parfois un gros héritage. L'enquête judiciaire lève alors le voile sur un système d'enrichissement crapuleux. Des sommes colossales, issues des dons à l'ARC, ont été détournées pour servir les intérêts d'un petit cercle de privilégiés, avec à leur tête Jacques Crosemary, le président de l'association, mouillé jusqu'au cou. Notre invitée aujourd'hui, Sophie Coignard, journaliste et essayiste, autrice du livre Enquête intitulé L'Omerta française, coécrit avec Stéphane Vicam, ouvrage réédité chez Albin Michel en 2014. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Adrien Cara, rédaction en chef Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca de Nantes, réalisation Stéphane Combe.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Comme disait Rému dans le célèbre film de Pagnol, Marius, ça dépend de la grosseur des tiers. La grosseur des tiers, il en est aussi question, mais sans rire du tout, dans la gestion de l'ARC, la première association de lutte contre le cancer en France. Si l'on en croit un rapport de la Cour des comptes, moins d'un tiers des fonds collectés par l'ARC est effectivement affecté à la recherche contre le cancer, les deux tiers restants étant consacrés à des dépenses de communication et autres fonctionnements. La Cour des comptes aurait aussi relevé des surfacturations et des commissions injustifiées dans la trésorerie de l'ARC et la justice a été saisie.
Mercredi 3 janvier 1996, Paris. Dans les kiosques de la capitale, l'ARC, l'ARC, Association pour recherche sur le cancer, fait la une ce matin-là. Et comme vous venez de l'entendre, il n'est pas question ici de recherche médicale, ni d'accompagnement des malades ou encore de plans de prévention contre le cancer, non. L'ARC se retrouve épinglé par un rapport explosif de la Cour des comptes. Lors de leurs investigations, les sages de la rue Cambon ont découvert de graves incohérences dans les résultats financiers de l'association présidée par Jacques Crosemary. Des faits suffisamment graves pour qu'ils en informent le parquet de Paris, dans le but de lancer une enquête sur les pratiques opaques de la plus grande association d'utilité publique de France. C'est dans les colonnes du journal Libération que fuient les premiers chiffres du rapport de la Cour des comptes. Et ils sont accablants. Pour la seule année 1993, sur les 581 millions de francs collectés par l'ARC, seuls 27% de cette somme a été consacrée à la recherche contre le cancer. Une différence vertigineuse qui soulève bien sûr une question brûlante. Où est passé l'argent des donateurs? Dans son édition hebdomadaire, Le Point remonte la piste des dépenses de fonctionnement sidérantes et suspectes de l'ARC. On découvre alors une série d'opérations coûteuses impliquant systématiquement les mêmes prestataires. Des sociétés privées qui semblent avoir établi des contrats d'exclusivité avec l'association dans plusieurs secteurs, communication, informatique ou encore imprimerie. Face à ce débit de polémique, le professeur Jean Lemerle, cancérologue et membre du conseil d'administration de l'ARC, dément les accusations et appelle les journalistes à la prudence.
Je vois des zones de flou un petit peu sur les chiffres qui sont avancés.
On dit que certains financements pour la recherche étaient difficiles à obtenir parce qu'ils étaient le fait du prince, le fait de M. Crosemary. Est-ce que c'est un sentiment partagé ici?
Je pense que ça fait partie de la légende. Toutes les affectations de crédit sont contresignées, approuvées d'abord par les commissions scientifiques de l'ARC et contresignées par le conseil d'administration de l'ARC. Je pense qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit, à ce qu'on écrit dans ce domaine. Je pense à des millions de personnes qui ont donné parfois un petit chèque et d'autres fois un gros chèque et qui maintenant sont saisies par le doute et qui risqueront de ne pas recommencer. Et je pense que tout le monde y perdra.
Les magistrats de la Cour des comptes, eux, ne sont pas perdus dans l'examen des documents de l'ARC pour son exercice financier de l'année 93. Parmi les révélations les plus marquantes figure le coût réel des collectes de dons, plus de 145 millions de francs. De l'argent qui aurait servi aux dépenses de publicité, télé, presse, ainsi qu'aux frais de traitement administratif de l'argent envoyé par les donateurs. Sur ce point, la Cour des comptes constate, je la cite, un système affreusement inefficace et dispendieux. Et ce n'est pas fini. Les magistrats de la Cour ont également découvert l'existence d'une nébuleuse d'entreprises et de personnages qui ont mis en place autour de l'ARC un système de majoration, de commission, de surfacturation et même de fausse facturation. Le rapport pointe également de graves anomalies. L'ARC, par exemple, a manqué à plusieurs reprises de discernement lors du financement de projets de recherche. C'est le cas notamment avec le centre hospitalier de Rueil-Malmaison. L'ARC achète des lasers pour 32 millions de francs. Mais faute d'avoir choisi le bon matériel homologué, les lasers resteront dans leur carton, inutilisés parce que inutilisables. Personnage central de toute cette affaire, Jacques Crosemary, président de l'ARC. Dans son rapport, la Cour des comptes pointe du doigt ses dérives autoritaires et ses décisions arbitraires dans l'attribution des dons. Pire, le président de l'ARC aurait par la suite été rémunéré par des entreprises à qui il aurait offert l'exclusivité de certains marchés. Sur France Inter, la journaliste Hélène Cardin dresse le portrait de cet homme âgé de 71 ans à l'époque des faits.
Vous l'avez tous entendu à la radio et vous l'avez tous vu à la télévision, s'exprimant en blouse blanche, parfois, de ce ton convaincant et appelant les dons pour la recherche sur le cancer. Vous avez tous cru qu'il était médecin et cancérologue. Eh bien non, il n'est ni médecin ni cancérologue. Il est ingénieur de l'École française de radioélectricité. Il règne en maître sur cette association, finance chercheurs et laboratoires, aidé en cela par des commissions scientifiques. Mais curieusement, fait du prince, certains chercheurs et certains laboratoires seront bien mieux servis que d'autres. Peu à peu, il est question du train de vie du président de l'ARC, de ses deux voitures, de son logement de fonction et de sa mégalomanie.
Jacques Crosemary, président de l'ARC et visage en France de la lutte contre le cancer à la télé depuis plus de 30 ans, n'a jamais obtenu le moindre diplôme médical. Sur le papier, l'ARC est une association dite « loi 1901 ». Autrement dit, sans but lucratif et dont l'organisation est régie par des décisions prises lors d'Assemblée Générale. Ça, c'est pour la théorie. Car dans la pratique, le fonctionnement de l'ARC est décrit par le rapport de la Cour des comptes comme théocratique. Marchandage, chantage, menace. Jacques Crosemary est dépeint, d'après les témoignages recueillis, comme le parrain d'une organisation aux allures quasi mafieuses. Conséquence, malgré des révélations accablantes, nombreux sont les membres de l'ARC qui refusent de témoigner par peur de représailles. Le seul qui accepte de parler, c'est le président lui-même. Au micro de France Inter, Jacques Crosemary balaie les accusations portées contre lui.
Je ne suis pas démissionnaire parce que je reconnaîtrai à ce moment-là que je suis coupable et encore une fois, je suis coupable de rien. Je vais donc participer, et je le fais de vraiment, j'y tiens plus que quiconque, à donner toutes les explications et les éclaircissements qui peuvent être demandés, et après, certainement, eh bien, je mettrai un frein à mes activités, parce que je ne pourrai pas les supporter encore longtemps.
En coulisses, Crosemary fait passer un message très clair à tous ceux qui tenteraient de s'opposer à lui lors du prochain conseil d'administration de l'ARC. Si sa position de président se retrouve menacée par quiconque, il n'hésitera pas à dissoudre l'association. Une attitude qui provoque la colère des professeurs Léon Schwarzenberg et Maurice Tubiana. Dans les colonnes du journal Le Monde, les deux chercheurs dénoncent une prise en otage de l'ARC. Ils appellent les pouvoirs publics à réagir pour éviter que l'actuel naufrage de gouvernance de l'association ne se transforme en sabordage interne dont les conséquences seraient terribles pour la recherche. Je reprends leurs mots. Du côté de l'opinion publique, la stupéfaction se transforme en profond malaise. Car l'image de l'ARC était celle de ses spots télévisés émouvants d'appel aux dons, ses visages d'enfants, ses promesses de guérison pour les malades. Une communication bien huilée, pleine de compassion, de science et d'espoir.
Les hommes, les femmes, les enfants qui souffrent d'un cancer doivent souvent affronter la douleur. À leur côté, chercheurs et médecins s'attachent à rendre leur traitement plus supportable.
Pour financer tous les axes de recherche sur le cancer, participez à la nouvelle campagne de l'ARC. Vaincre le cancer, c'est aussi combattre la douleur. Cette recherche est utile pour tous. Aujourd'hui, souffrir est inacceptable. Soutenez la recherche, rejoignez l'ARC.
Écrivez à l'ARC, boîte postale 300, Villejuif.
L'Association pour la recherche sur le cancer, l'ARC, voit le jour en 1962 sur le plateau de Villejuif, en banlieue de Paris, à l'endroit même où se trouve le centre de recherche de l'Institut Gustave Roussy, établissement privé à but non lucratif spécialisé dans la lutte contre le cancer. L'ARC, c'est la rencontre entre d'un côté Jacques Rosemary, ancien administrateur du CNRS et de l'INSERM, porté par une prétendue motivation personnelle, sa fiancée serait décédée d'un cancer. De l'autre, plusieurs grands médecins et chercheurs, parmi lesquels les professeurs Tubiana et Schwarzenberg, tous animés par une même ambition, développer une filière publique d'excellence pour améliorer la prise en charge des patients atteints de cancer. Voilà la belle histoire de l'ARC, celle qu'on trouve sur les fascicules de l'association avec ce logo bleu azur, où figure d'ailleurs cette mention qui transpire la confiance. L'ARC reconnu d'utilité publique. Or, la réalité sur les véritables débuts de l'association est un peu moins reluisante. En 1962, en effet, il existe déjà une association en France qui collecte des fonds pour la lutte contre le cancer, la Ligue contre le cancer, tout simplement. Certaines rumeurs prétendent que Rosemary aurait subtilisé la liste des donateurs de la Ligue afin de les démarcher au nom de l'ARC. La suite, c'est le début d'une campagne de dénigrement et d'accusations tous azimuts, menée par le même Rosemary contre la Ligue. En parallèle, pour assouvir ses rêves d'expansion, il investit la sphère médiatique et culturelle. Concerts, journées spéciales de mobilisation, parrainage d'artistes, de politiques, de sportifs. Grâce à ces événements, l'ARC incarne aux yeux de l'opinion une vitrine de la recherche scientifique. En 1973, l'ARC devient le partenaire du tournoi de football au Parc des Princes. Tous les bénéfices des matchs sont reversés à l'association. Au micro de France Inter, Jacques Rosemary se félicite.
Si vous voulez, c'est un match pour la vie que nous devons gagner. Or, nous avons besoin de beaucoup de supporters. J'espère que le Parc des Princes sera rempli ce soir et le 7. Et j'espère aussi que beaucoup de Français répondront à notre appel, car nous avons besoin d'argent frais pour aider l'État qui assume à 92% le budget de Villejuif, plus grand centre européen de recherche sur le cancer.
Quand dans les médias, Jacques Rosemary affiche ce visage de grand-père bienveillant, au regard souriant et à la voix généreuse, en coulisses, il dirige l'ARC d'une main de fer. Dès 1984, l'Inspection générale des affaires sociales, IGAS, s'intéresse au fonctionnement de l'association. La conclusion du rapport d'enquête remis au ministère du Travail et à la Direction générale de la Santé est sans nuance. Elle dit « L'ARC est une structure qui conforte le pouvoir autoritaire et luxueux de son président, M. Rosemary. Il est épaulé par un trésorier qui n'hésite pas à emprunter sur cet argent et collecter des sommes importantes dont la destination est sans doute d'intérêt commercial. » 3 ans plus tard, nouvelle enquête. Cette fois, la cible, c'est l'Institut Gustave Roussy, à Villejuif, dont une grande partie des travaux de recherche est financée par l'ARC. Et là encore, l'IGAS affirme que l'Institut entretient une dépendance lourde et malsaine avec l'ARC. Et là encore, apparaît le nom de Jacques Rosemary. Le président de l'ARC exerce son pouvoir de manière quasi théocratique sur l'attribution des sommes, bafouant toutes les règles en vigueur sur le statut de son association, affirme l'IGAS. Mais ces deux rapports, comme des lanceurs d'alerte, restent sans conséquence. À cela s'ajoute même une demande de la ministre de la Santé, Michel Barzac, en 87, pour obtenir un état des lieux approfondi sur la gestion des fonds et les activités de l'ARC. Eh bien là encore, les choses ne vont pas plus loin. Et pendant ce temps, Jacques Rosemary continue sa mission d'information à la télé et à la radio comme si de rien n'était. C'est le cas ici, à la Maison de la Radio, au printemps 89. Le président de l'ARC est invité en compagnie du professeur Lucien Israël pour les journées de l'ARC.
Nous avons obtenu de monsieur le Premier ministre le label Priorité nationale pour l'année 1989. Donc c'est donc une reconnaissance, l'action de l'arc, qui a pour but de guérir et de traiter avec succès 75% des cancers en l'an 2000.
C'est ça, c'est ce que vous me disiez
donc
tout à l'heure en micro. C'est que demain, enfin en l'an 2000, on pourrait donc peut-être guérir 75% des cancers. Et pour que les recherches puissent se poursuivre, évidemment, il faut des fonds.
Évidemment, c'est il faut des moyens. Et c'est pourquoi les chercheurs sont derrière Jacques Crosemary pour ses campagnes, dont les résultats nous sont indispensables pour faire fonctionner nos laboratoires. L'IGAS ne pèse pas les bras. Son directeur, Michel Lucas, fait circuler un brouillon de rapport au ministre de la Santé, du Travail et des Affaires Sociales. Le document est reçu, vu et sans doute lu par plusieurs hauts responsables. Mais personne n'agit. Crosemary semble intouchable. As de la contre-attaque judiciaire, il dispose d'avocats prêts à attaquer tous ceux qui osent s'approcher de trop près. Le grand tournant intervient en 1991. Cette année-là, la loi change. La Cour des comptes a désormais le pouvoir de contrôler les institutions faisant appel à la charité publique. Les magistrats de la rue Cambon s'intéressent alors de très près à l'arc et préparent leurs flèches. Jacques Crosemary ne le sait pas encore, mais la fin de son règne approche. Derrière l'image prestigieuse de l'association, les gigantesques irrégularités comptables s'apprêtent à être mises en lumière, révélant l'une des plus grandes escroqueries du monde associatif français.
Volute par ton fumée, volute fond des nuées de scrupules. Volute par ton fumée, vers des flûtes enchantées et des cruelles espérances, me lance des dagues et des lances en toute innocence. Je cloue des clous sur des nuages, un marteau au fond du garage. Sur des nuages, sans échafaudage. Volute part en fumée, sous les yeux embués, l'étrange libellule. Pour une grimace et un rictus de plus, je fais deux heures sur. Je m'en donne de la peine, je cogite, je m'agite, je rejoue la scène. Je cloue des clous sur des nuages, un marteau au fond du garage. Je cloue des clous sur des nuages, sans échafaudage. Des lunes surdouées, aux courbes souveraines, pleines, pleines. Volute part en fumée, sous des soleils qui s'ignorent, dors, dormir, mes réponses allongées, mais que dire, mais que faire, mais comment ça tient l'air, ces deux hémisphères. Par quel mystère, je cloue des clous sur des nuages, un marteau au fond du garage. Je cloue des clous sur des nuages, sans échafaudage. Pardon.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'affaire Rosemary.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Bonjour. Interpellation en série ce matin dans le cadre de l'affaire de l'Arc. Les policiers se sont également rendus au domicile de Jacques Rosemary, l'ancien président de l'Association pour la recherche contre le cancer. Mais Jacques Rosemary n'était pas chez lui. Reportage de Pierre Billot.
Jeudi 9 mai 1996. Après 4 mois d'enquête, le juge Jean-Pierre Zanotto lance des mandats d'arrêt contre une dizaine d'individus soupçonnés d'abus de confiance, faux, usage de faux et complicité dans l'affaire de l'Arc. Principal suspect et pierre angulaire de tout le dossier, Jacques Rosemary. Le juge le soupçonne d'avoir été l'initiateur et le premier bénéficiaire de ces opérations frauduleuses. Grâce à un montage financier, Rosemary aurait financé par l'Arc son train de vie luxueux, des achats de voitures de sport et la réalisation de travaux dans ses résidences secondaires. Problème, lorsque les policiers se présentent au domicile de l'intéressé en banlieue parisienne, personne. Personne non plus lorsqu'il frappe à la porte de sa résidence secondaire de Bandol. Par la voix de son avocat, Rosemary affirme avoir dû s'absenter et précise qu'il se mettra prochainement à disposition de la justice afin de répondre aux accusations portées contre lui. Interviewé sur France Inter, Jean Bourdeloup, ancien inspecteur des affaires sociales et ancien adhérent de l'Arc, confirme qu'il a quitté l'association à cause du comportement de Rosemary, justement.
J'ai été adhérent et donateur pendant une bonne quinzaine d'années, et depuis 1985, je n'y étais plus. Je ne connaissais pas tous les tenants et aboutissants du dossier, mais l'aspect extrêmement, je dirais, médiatique, tapageur de M. Rosemary et de certains autres membres de l'équipe m'avait fortement indisposé et m'avait fait cesser d'être effectivement adhérent et de cotiser à l'Arc depuis cette période-là.
D'après les témoignages recueillis par les gendarmes, des dizaines d'employés de sociétés privées sont venus de Paris par avion pour effectuer des travaux d'extension dans la villa de Rosemary, à Rian, dans le Var. Piscine chauffée, salle de cinéma, cours de tennis, cave à vin, terrasse, le tout réglé par une cascade de fausses factures, toutes payées en réalité par l'Arc. Au milieu de la pile de documents, une facture démontre la folie des grandeurs du président de l'Arc. Rosemary a engagé une société de paysagistes pour réaliser l'aménagement de son jardin. Montant total des travaux, plus de 300 000 francs. Et à la fin, c'est l'Arc qui paye. Et une fois les travaux de sa villa terminés, Rosemary met la maison en vente. Grâce à la plus-value ainsi réalisée, il s'offre une nouvelle propriété encore plus grande, cette fois à Bandol, en bord de Méditerranée. Et là encore, Rosemary recommence son stratagème. L'Arc paie les factures de luxe, travaux d'aménagement. Après 24 heures d'une fausse cavale, il se rend au policier. Mais coup de théâtre, il fait un malaise. Sur France Inter, le journaliste Pierre Billot raconte.
Jacques Rosemary est depuis ce matin derrière les barreaux de son lit d'hôpital avec deux policiers à son chevet, mis en examen pour abus de confiance et usage de faux. Jacques Rosemary est plus que jamais soupçonné de s'être enrichi sur le compte approvisionné par les généreux donateurs de l'association. L'ex-président aurait ainsi perçu une sorte de dîme versée par des sociétés sous-traitantes chargées de la communication de l'Arc, des entreprises qui semblent avoir dégagé de confortables bénéfices grâce à des surfacturations totalement illégales. Jacques Rosemary aurait profité de leur largesse et de certains avantages en nature, précise ce soir son avocat. Mais sur son lit de douleur, l'ancienne figure très médiatique de la lutte contre le cancer refuse désormais d'en dire plus aux magistrats sur cette affaire de l'Arc.
Dans les colonnes de l'hebdomadaire Le Point, la journaliste Sophie Coignard dresse la liste stupéfiante des cadeaux reçus par Rosemary de la part de sociétés privées. En échange, ces mêmes sociétés obtenaient l'exclusivité de certains marchés avec l'Arc. Campagne de publicité, organisation d'événements, production et impression de la revue de l'association, aménagement de laboratoire. Des sociétés qui se livraient ensuite à d'immenses opérations de surfacturation et de fausses facturations. Au menu des bénéfices en nature dont a bénéficié Rosemary, on trouve des séjours à l'île Maurice, une partie de pêche au Sénégal, des parties de chasse en Afrique centrale et même des valises de cash qui permettait au président de l'Arc de régler ses dépenses en liquide. Parmi elles, Rosemary a ainsi réglé 84 000 francs à la maison de retraite dans laquelle était placée sa mère. Toujours d'après l'enquête de Sophie Coignard, on découvre les noms de certains complices de la nébuleuse Crosemary. Parmi eux, Michel Simon, patron d'International Développement, qui réalise la revue de l'ARC, président également de SQ2, société qui gère le fichier des donateurs de l'ARC, et enfin, gérant de 4 autres sociétés qui collaborent directement avec l'ARC. Tout comme Crosemary, Simon a facturé à l'ARC les travaux d'aménagement d'une villa en Provence pour 5 millions de francs. Autre protagoniste, Denis Beaumont, dirigeant de la Sotafi, entreprise qui fournit le papier nécessaire à l'impression de la revue de l'ARC et dont le contrat est 20% plus cher que celui de ses concurrents du secteur. Cette même Sotafi, en plus de surfacturer l'ARC, versait aussi des honoraires à Jacques Crosemary pour de prétendues missions de conseil sur l'usage du camphre et l'aéronautique. Le juge Zanotto soupçonne qu'il s'agit là de rétrocommission. Joint par téléphone, le nouveau président par intérim de l'ARC, Michel Leca, confirme que plusieurs marchés ont donné lieu à des malversations financières.
C'est la conclusion de l'enquête effectuée par la brigade financière qui a donc déterminé les personnes qui avaient pu, soit directement, soit par complicité, utiliser des procédures de tarification, notamment sur le papier utilisé pour la communication, ce qui représentait quand même une part importante des dépenses de l'ARC. La Cour des comptes, sur la base de ce qu'elle avait vérifié, avait établi que le prix du papier aurait pu être multiplié jusqu'à 4.
3 ans plus tard, le mercredi 26 mai 1999, s'ouvre au tribunal correctionnel de Paris le procès de ce que la presse surnomme le gang du cancer. Jacques Crosemary et 26 complices présumés sont jugés pour recel d'abus de biens sociaux et abus de confiance dans l'affaire de l'ARC. Alors, petite subtilité, le préjudice total fait encore débat. Pour la justice, il dépasse plusieurs centaines de millions de francs. Pour les journalistes, il atteint au moins le milliard de francs, soit l'équivalent de plus de 230 millions d'euros d'aujourd'hui. Avant l'ouverture des débats, Crosemary essaie de faire annuler la procédure. Mais rien n'y fait. L'ancien patron tout-puissant de la plus grande association de charité publique en France se retrouve lâché par ses derniers soutiens et il ne convainc désormais plus grand monde. Dès son entrée dans la salle d'audience, il abat une nouvelle carte. Celle du vieil homme malade, fatigué, voûté. Son avocat, Olivier Metzner, brandit au magistrat des certificats médicaux et face aux journalistes, il tente de prendre l'opinion à partie.
Il y a la force de cette rumeur qui veut que Crosemary soit forcément coupable parce qu'il faut un coupable dans ce procès. Ça a été l'un des hommes les plus courtisés que j'ai connus. C'est aujourd'hui l'homme le plus seul que je connaisse. Personne ne lui téléphone, plus personne ne frappe à sa porte. Il est totalement isolé.
La salle d'audience est pleine à craquer. L'ambiance est tendue. Le procureur se lève. Il déroule point par point les conclusions accablantes de l'enquête judiciaire menée par le juge Zanotto. Sur la table des juges, un dossier d'instruction de plus de 1000 pages. Assis à quelques mètres de là, Jacques Crosemary, blême, sait que cette fois la partie est terminée. Tantôt hautain, tantôt agressif, il esquive le plus souvent leurs questions. Monsieur Crosemary, comment justifiez-vous les dépenses de communication astronomiques de l'ARC ? Lancent les juges. Crosemary hausse les épaules. Aucune idée, il ne se souvient pas. Ce n'était pas lui qui gérait cela. Difficile à croire, car à l'époque, le président de l'ARC régnait sans partage. Mais aujourd'hui, il prétend qu'il n'était qu'un figurant. Sur le banc des accusés, Michel Simon, Denis Beaumont et toute la clique d'entrepreneurs qui se sont servis dans les caisses de l'ARC pendant des années. Un seul absent, Pascal Sarda, mort d'un accident de voiture 1 an plus tôt, et sur lequel tous tentent aujourd'hui de rejeter la faute. À la barre, les interrogatoires s'enchaînent. La journaliste Sophie Coignard est là. Elle raconte ensuite dans son livre la réaction sidérée de l'audience lorsque le procureur rappelle que sur leurs opérations crapuleuses, les accusés prélevaient ce qu'ils appelaient entre eux, avec un certain cynisme, le tiers payant. Au chapitre des fausses factures, les accusés reprenaient d'anciennes pièces comptables, modifiant dates et montants, parfois même les photocopiées entre elles. Un exemple, celui de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. L'un de ses services a servi de couverture à plus d'un demi-million de francs de fausses factures de l'Arc. Les médecins sur place, eux, n'en savaient rien. Ironie de l'histoire, c'est dans ce même service que Crosemary sera hospitalisée suite à son malaise lors de la garde à vue. Maintenant, question centrale du procès, l'enrichissement personnel. Depuis le début, Crosemary nie s'être enrichie. Son argent, un modeste héritage de famille. Oui, sauf qu'un juge suisse envoie un document explosif. Et on apprend qu'à Genève, monsieur le président de l'Arc possède un compte dont le solde dépasse les 1 million de francs. 1 million et 400 000 francs pour être précis. Dans la foulée, le bloc des accusés se fissure davantage. À la barre, Michel Simon fait un aveu choc. Sa société a rémunéré plusieurs jeunes femmes avec des contrats fictifs. Officiellement, elles étaient au service personnel de Jacques Crosemary pour l'aider dans ses déplacements et son secrétariat. En réalité, elles partageaient aussi, semble-t-il, ses nuits dans sa villa de la Côte d'Azur. Dans le box, Crosemary fait de nouveau un malaise. Il est évacué par les pompiers et hospitalisé. À la sortie de l'audience, l'envoyé spécial de France Inter, Christian Wiener, tend son micro à Patrick Maisonneuve, avocat de l'Arc, partie civile dans le dossier.
Et ce qui est étonnant, c'est qu'il semblait vivre uniquement avec de l'argent liquide que les sociétés lui donnaient comme ça.
C'est ce qui est apparu très clairement sur ses, aucun retrait sur ses comptes bancaires, des versements en espèces sur ses comptes bancaires. Des témoins viennent dire qu'effectivement, qu'il avait des sommes en espèces sur lui, notamment ses anciennes amies, ses anciennes concubines. Je crois qu'il y a aussi des sommes en espèces qui tournent autour de M. Crosemary de façon absolument certaine en ce qui concerne son train de vie.
4 mois plus tard, autrement dit en octobre 1999, le tribunal correctionnel de Paris rend son jugement dans l'affaire du scandale de l'Arc. Jacques Crosemary est reconnu coupable d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux. Il écope de 4 ans de prison ferme, une amende de 1,5 million de francs et l'obligation de rembourser la somme de 87 millions de francs au titre de dommages et intérêts à l'Arc. Michel Simon, Denis Beaumont et les principaux instigateurs des fausses factures sont condamnés à des peines de prison, dont une grande partie avec sursis, comme 17 autres accusés. Les 4 autres sont relaxés. Le parquet, qui avait requis l'arrestation de Crosemary pendant l'audience, fait appel de la décision. Crosemary ressort donc libre du tribunal. Mais au mois de juin 2000, lors du procès en appel, il est condamné avec mandat de dépôt, donc incarcéré, en l'occurrence à la prison de Toulon. Décision confirmée plus tard par la Cour de cassation. À sa sortie, en 2002, à l'âge de 77 ans, Crosemary trouve un temps refuge chez un couple de médecins avant d'être placé dans une maison de retraite de la banlieue parisienne, où il meurt en 2006. Quant à l'Arc, elle n'a jamais récupéré l'argent détourné. L'association est dissoute en 2012 et remplacée par la Fondation Arc pour la recherche sur le cancer.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'affaire de l'Arc ou l'affaire Crosemary. C'est la même affaire dont nous parlons avec vous, Sophie Coignard. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez été citée plusieurs fois dans ce récit parce que vous avez beaucoup travaillé sur cette affaire. Vous êtes journaliste et essayiste, autrice de nombreux livres d'enquête, dont l'un fait figure d'ouvrage de référence sur cette affaire. Ce livre est intitulé « L'Omerta française », coécrit avec Stéphane Vicam, réédité chez Albin Michel en 2014. Et votre dernier livre s'appelle « La tyrannie de la médiocrité, pourquoi il faut sauver le mérite ». Celui-là est paru aux éditions de l'Observatoire en 2022. On en dira peut-être un mot à la fin de cette interview si on a le temps. Alors, vous avez enquêté sur de nombreuses affaires, donc, et scandales qui ont marqué les 30 dernières années. Comment avez-vous découvert cette affaire de l'Arc ?
En fait, j'ai commencé à m'intéresser à l'Arc le jour où j'ai appris que Jacques Crosemary n'était pas cancérologue ni même médecin. J'ai trouvé ça très intriguant d'utiliser l'argument d'autorité de la blouse blanche, qui était un argument de légitimité tout à fait extraordinaire et a priori incontestable. Tout ça m'a semblé bizarre et j'ai commencé à en parler. Je m'occupais du service société au Point à l'époque, à quelques médecins hospitaliers que je rencontrais. Quelques-uns ont commencé à me parler, ils ne savaient rien. Mais
Ils sentaient quelque chose.
Voilà, ils sentaient quelque chose, etc. Et puis, il y en avait d'autres qui étaient carrément totalement aux abris, c'est-à-dire qui me disaient que d'abord, c'était scandaleux de se poser ce genre de questions. En gros, enquêter sur Crosemary pendant très longtemps, c'était être l'allié objectif du cancer. Donc, c'était vraiment œuvrer pour le mal. Il y avait quand même toute cette ambiance que vous avez d'ailleurs restituée, notamment avec quelques archives de mandarins qui expliquaient finalement à l'ensemble des auditeurs et des téléspectateurs que vraiment l'Arc était indispensable et surtout inattaquable.
Donc, s'attaquer à Crosemary, c'était s'attaquer à une icône.
C'était s'attaquer à une icône et surtout à une institution qui faisait le bien.
Mais oui.
Et donc, tous les bonistes de la Terre, si j'ose dire, étaient là pour vous accabler si vous posiez la moindre question. Je ne vous parle même pas d'attaquer, je vous parle juste d'interroger. Interroger était déjà un énorme péché. Pour moi, la rencontre extraordinaire, c'est la rencontre avec Michel Lucas, que vous avez cité. Donc, Michel Lucas, pour moi, est un haut fonctionnaire absolument modèle, qui, à lui seul, donne une idée absolument formidable de ce qu'est la haute fonction publique et la mission d'intérêt général qu'elle peut, quand elle fait bien son travail, incarner. Et donc, il se trouve que Michel Lucas, que je connaissais par ailleurs, ça faisait partie de mon métier, était depuis longtemps, comme vous l'avez dit, je ne le savais pas à l'époque, très désireux d'en savoir plus sur l'Arc. Et un jour, je lui dis, écoutez, je suis quand même tout à fait étonnée, enfin, je lui fais part de mes interrogations. Et pour la première fois, je trouve une oreille non seulement attentive, mais enchantée, si j'ose dire. Et donc, de fil en aiguille, il se trouve que j'ai pu retrouver le fameux non-rapport qui existait, qui avait été fait donc, au début des années 90. Qu'est-ce qui se passe donc ? Parce que ça, c'est quand même... Enfin, ça dit tout de Crosemary et de son système. Ce qui se passait, c'est qu'il y avait donc des inspecteurs généraux des affaires sociales qui avaient été dépêchés dans les locaux de l'Arc. Ils ont pu travailler, je dirais, 2 ou 3 semaines. Et puis, évidemment, ils sont compétents. Donc, ils ont commencé à découvrir qu'il y avait des anomalies et qu'il y avait des sociétés prestataires qui prenait beaucoup d'argent et surtout qu'avait des contrats d'exclusivité, etc. et que tout ça n'était pas normal et que finalement Crosemary se vantait dans ses plaquettes, etc. que les 2/3 de l'argent des donateurs, parce que c'est quand même les donateurs, comme vous l'avez dit, auxquels je pensais en premier.
C'est les premiers spoliés, c'est
à ces gens qui, parce qu'ils avaient eu un décès dans leur famille, prenaient sur des ressources parfois très modeste, pour donner à l'Arc parce qu'ils avaient confiance. Bref, toujours est-il que les inspecteurs de l'IGAS découvrent donc une partie de l'affreux secret de Crosemary et de l'Arc, et au moment où ils découvrent ça, Crosemary les fait décamper. Il les vire, il les met dehors, il leur explique que de toute façon, il ne perçoit pas un centime de subventions publiques, et que par conséquent, les inspecteurs des affaires sociales sont parfaitement incompétents pour lui chercher, enfin chercher la moindre chose dans sa comptabilité. Il les fait dégager, et à la suite de ça, il saisit, alors je ne sais plus si dans quel ordre il saisit le tribunal, etc., tribunal administratif, qui lui donne raison. Les textes sont les textes. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Michel Lucas, en coulisses, fait du lobbying. Et arrive à faire passer ce qu'on appelle un cavalier législatif, c'est-à-dire à insérer dans une loi qui n'a pas grand-chose à voir...
Utilité publique, c'est ça ? Association d'utilité publique.
Le fait que la Cour des comptes pourra contrôler toutes les associations qui sont reconnues d'utilité publique.
Voilà, c'est ça.
Évidemment...
C'est un tournant, ça.
Mais c'est le tournant, comme vous l'avez dit. Évidemment, ancien énarque, il a quelques copains à la Cour des comptes et il leur susurre qu'il y a vraiment une association à contrôler en toute priorité... C'est l'Arc.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Sophie Coignard, de ce que vous en savez, quel était le regard porté par le gouvernement, les autorités, le ministère de la Santé et des Affaires sociales sur ce dossier-là ?
C'est compliqué parce que, évidemment, on a tous cherché, moi la première, s'il y avait eu par exemple du financement politique occulte, et sincèrement, personne n'a rien trouvé. Donc, je pense qu'il faut chercher ailleurs. Il faut chercher juste dans le fait que, finalement, quel responsable politique avait intérêt à attaquer l'Arc, à poser des questions sur l'Arc ? C'était en termes de communication. une mauvaise affaire.
Oui, ça renvoie à ce que vous disiez,
la vache
sacrée.
Ce qui était vrai, pour le commun des journalistes, l'était encore plus pour un ministre de la Santé, voire un Premier ministre. Mmh. Il faut quand même noter, moi je me souviens, je commence à enquêter sur l'Arc en 1994, je sors mon premier papier à l'automne 1994, et c'est là où j'ai découvert, grâce aux indications, c'est-à-dire j'avais le nom des sociétés. Donc comme j'avais le nom des sociétés, j'ai pu aller passer des journées au tribunal de commerce, il n'y avait pas d'internet à l'époque, ou si peu. Et donc c'est là où j'ai trouvé des documents qui étaient saisissants. Par exemple, International Développement, une des boîtes qui avait un contrat d'exclusivité pendant très longtemps, puis ensuite c'était pas de l'exclusivité, mais enfin quasi, a vu sa valeur en 15 ans, entre 1979 et 1994, a vu sa valeur multipliée par 445. Et effectivement, enfin, vous pouvez interroger n'importe quel expert comptable, ça n'arrive jamais, même dans les meilleurs business. Bref, donc je sors ce papier qui montre l'enrichissement personnel, qui montre l'envers du décor avec ces sociétés qui vendaient des jouets, des articles de pêche, des articles de sport, etc. Parce qu'il y avait l'aspect pêche au gros et escort girl, paysagiste, en fait tout ce que vous avez merveilleusement raconté. Et puis il y avait un aspect enrichissement en rendant les sociétés très rentables et en se versant des dividendes de fou. Mmh. Et ensuite évidemment les sociétés elles-mêmes rémunéraient Crosemary en lui commandant des études bidons, etc. Bref, tout ça pour en venir aux politiques. À peu près à ce moment-là, Jacques Crosemary, qui arbore déjà très fièrement sa rosette de chevalier de la Légion d'honneur, a demandé, enfin ses amis cancérologues ont demandé pour lui que ce héros soit fait officier ou commandeur, je ne sais plus à quel grade
honoré,
il était,
mais
enfin, qui monte d'un grade, bref. Et Simone Veil, qui est ministre de la Santé, s'y oppose.
Et pourquoi, vous savez? Elle a des soupçons.
Parce que je pense que Michel Lucas, je crois savoir que Michel Lucas, comme vous l'avez dit, avait quand même alerté son ministre de tutelle en lui disant qu'il se passait de drôles choses, que ses inspecteurs s'étaient fait mettre à la porte de l'Arc, et que s'ils s'étaient fait mettre à la porte de l'Arc, c'est parce qu'ils avaient commencé à ouvrir une boîte de Pandore.
Alors, il n'y a pas de financement politique, hein, on n'a rien trouvé là-dessus. Ce sont des enrichissements personnels. Oui. On a parlé d'organisation mafieuse. Le mot est trop fort ou pas?
Non.
Bon,
non,
c'est clair comme ça.
Je trouve qu'il est pas fort. Enfin, il est parfaitement adapté.
Crosemary était bien le cerveau de ce qu'on appelait le gang du cancer.
Alors, c'est là où, par contre, j'ai encore aujourd'hui un doute. C'est-à-dire qu'il y avait notamment un homme qui s'appelait Michel Simon, qui était le patron de la plupart, président de la plupart des boîtes.
Plusieurs fois cité dans le récit.
Voilà. Et ce Michel Simon avait aussi un bureau et une secrétaire à l'Arc. Voilà, je pense que c'était d'ailleurs le titre de la prévention dans la mise en examen. Je pense que c'était une association de malfaiteurs et que Crosemary était la vitrine de cette association. Et Michel Simon, je dirais pas qu'il en était le cerveau, mais il en était vraisemblablement la cheville ouvrière.
Si on avait été un peu provocateur, on aurait pu faire comme titre « Cancer, par ici la bonne affaire ».
C'est exactement ça.
Et c'est toute l'immoralité du sujet.
C'est exactement ça.
Tiens, on va l'écouter, Crosemary, quand il répond en 1996 aux questions de France Inter.
Je ne suis pas rémunéré, pas plus que les 128 et 50 autres conseillers scientifiques de l'Arc. Nous faisons tout ceci bénévolement et il est difficile de travailler autant. Et je pense qu'il est difficile de trouver un remplaçant qui accepterait de faire ce que j'ai fait bénévolement.
Bon, après tout ce qu'on a raconté, ce qu'on a dit, c'est sans commentaire.
Je crois que ça se passe de commentaire, en effet.
Vous avez assisté au procès?
Oui, bien sûr.
Bien sûr, on l'a dit. Hein. Racontez-nous un peu ce que vous avez retenu, vos souvenirs, l'attitude de Crosemary.
Ce qui est certain, c'est que j'allais dire, la peur avait un peu changé de camp. Moi, j'ai passé quand même, je me souviens, c'était le mercredi matin, des mercredis matins à répétition au tribunal des référés, parce que Crosemary faisait des référés contre Le Point et contre moi, qui était signataire des articles, pour essayer de faire ce qu'on appelle des procédures bâillons, c'est-à-dire de nous dissuader de continuer à chercher. Et donc, tout à coup, évidemment, l'ambiance avait changé. Les rats avaient quitté le navire, si j'ose dire. C'est là où Olivier Metzner a raison. soupçons. Même les derniers soutiens de Jacques Rosemary, membre du conseil d'administration, comme Schwarzenberg ou Tubiana, tout à coup, avaient pris la poudre d'escampette et étaient aux abonnés absents. Ils avaient même fait, donc, ces fameux appels, c'est vraiment un virage sur l'aile de dernière minute pour dire que vraiment, il fallait sauvegarder l'Arc et se débarrasser de Rosemary. Donc, il n'avait plus personne. Olivier Metzner avait raison. Mais ce qui est absolument insensé, c'est effectivement la manière dont, jusqu'au bout, la défense de Rosemary a été l'amnésie et le déni. Si je peux les qualifier ainsi. Avec une petite tentative de jouer tout à coup non plus, enfin vous avez entendu le ton de superbe qu'était le sien quand il était interviewé, tout à coup on avait vraiment l'impression qu'il avait déjà un pied dans la tombe. Ouais. Et donc il jouait aussi sur cette espèce de côté victimaire. Le moins qu'on puisse dire, c'est que, et ça je m'en souviens très bien, le tribunal n'a pas du tout été impressionné par ces géniardises.
Vous dites qu'il avait un pied dans la tombe, il est mort en 2006, de quoi est-il mort? On le sait?
En tout cas, à l'époque du procès, moi je me suis peu intéressée à la fin de sa vie, mais à l'époque du procès, il avait des problèmes cardiaques. Effectivement, la question que moi et certains de mes confrères se posaient à chaque fois qu'il était en difficulté, il se tenait le cœur et il faisait un malaise. Est-ce qu'on était dans une mauvaise réinterprétation d'une pièce de Molière, est-ce qu'il était vraiment très malade? En tout cas, il a survécu quelques années à tout cela.
L'argent détourné a été un argent perdu. Hein. L'Arc n'a tout pas récupéré grand-chose, voire rien.
Rien.
Rien du tout.
Ben non, Rosemary était insolvable. La chose absolument formidable, c'est que la personne qui a essayé de sauver l'Arc, et ça je m'en souviens vraiment bien, c'était Michel Lucas. C'est-à-dire que c'est un retournement, comment vous dire, de situation. C'est lui qui est devenu le président de l'Arc, qui a essayé de la sauver, mais c'était très compliqué. Enfin, y compris les ressentiments de la Ligue contre le cancer, qui étaient justifiés, hein, contre Rosemary, faisaient que c'était difficile, parce que la Ligue contre le cancer, évidemment, allait pas... Enfin, je veux dire, le moins qu'on puisse dire, et c'est une litote, n'allait pas aider à ce que l'Arc puisse continuer à collecter de l'argent. Donc, voilà, Michel Lucas a fait ce qu'il a pu et la boucle a été bouclée.
Il nous reste 30 secondes. Votre dernier livre, La tyrannie de la médiocrité. C'est quoi la tyrannie de la médiocrité?
Non, alors c'est un petit, voilà, c'est un petit clin d'œil à un grand universitaire américain qui s'appelle Michael Sanders et qui a écrit la tyrannie du mérite, qui est un livre qui a eu un grand succès international parce que lui-même est un genre de rockstar de l'académisme scientifique américain. Et j'ai trouvé que c'était dommage de pas laisser d'espoir à ceux qui pensent que l'ascenseur social est un moyen de s'en sortir. Mmh. Michel Lucas lui-même venait d'un milieu modeste.
Décidément. Merci Sophie Coignard. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Rosemary, ou l'affaire de l'Arc. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. La technique aujourd'hui, il y avait Tila Hervu.